Et on retrouve tout de suite alors Hiron pour l'émission en dialogue entre congolais.
Bonsoir. Clôture la semaine dernière de la 5e session extraordinaire du Conseil national du travail à Kinshasa. À l'issue de ces travaux, les participants ont adopté un projet de document de politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce document consacre, entre autres, l'amélioration des conditions de travail et la garantie de la sécurité sociale aux travailleurs. Comment analyser le contenu de ce document? Ce projet suffit-il pour améliorer les conditions de travail en RDC? Nos invités dans cette émission sont professeur Mathieu Kalélé, sociologue et président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais. Professeur Kalélé, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Georges Kombo-Tongaboke, analyste et ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Zaïre, UNTSA. Bonsoir Monsieur Kombo.
Bonsoir.
Tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale se sont avérés vains. Ensuite, vous l'avez suivi sur nos antennes. Nous vous avons annoncé Jean-Modeste Maninga, expert et coordonnateur national du Programme national pour l'emploi des jeunes pro-IEN, RDC, une structure gouvernementale. Malheureusement, il s'est désisté et nous venons d'avoir presque en catastrophe Lievin Kaloubi, président de la Confédération démocratique du travail CDC. Il a pris part aux travaux de la 5e session extraordinaire du Conseil national du travail. Monsieur Lievin Kaloubi, bonsoir et merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission.
Merci.
Comme d'habitude, vos réactions, nous les avons sans problème. Robert Ngoulico de Benio Nord qui vous, la RDC semble devenir un terrain de spectacle. Aujourd'hui, c'est la politique de garantir la sécurité sociale. Hier, c'était celle de la création des emplois dont on n'a pas senti les effets. Je suis convaincu que cette politique n'aboutira à rien, que les politiciens préparent un autre lexique. Jack Sondoy de Lubumbashi Katanga. Nous qui sommes travailleurs, nous sommes délaissés entre les mains des employeurs qui bafouent cette politique et se permettent même de défier certaines autorités. En quoi cette nouvelle politique va garantir cet emploi? Au lieu de passer beaucoup de temps à réfléchir sur une nouvelle politique de l'emploi, il aurait été plus important d'appliquer à la loupe l'ancienne politique et voir à quel niveau il faut changer. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 58 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 58 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapitaine.
La République démocratique du Congo a désormais un projet de document de politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a été adopté vendredi dernier à Kinshasa. C'était à l'issue de 3 jours des travaux de la 5e session extraordinaire du Conseil national du travail. Le vice-premier ministre à l'intérim du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Simon Bouloupi, qui a présidé ces travaux, nous donne ici les innovations qu'apporte cet outil dans le secteur de l'emploi en RDC. Il est au micro de David Kalinda.
L'emploi fait partie des piliers ou bien des déclencheurs ici dans le cadre des DCRP que bientôt nous allons arriver à l'élaboration des DCRP deuxième génération. Ça fait partie des déclencheurs en faveur donc de la croissance économique, un facteur important dans la stabilisation et un facteur important aussi dans le sens de la cohésion nationale. Alors, le contenu ramasse en quelque sorte quelques axes, c'est-à-dire la promotion de l'emploi, la recherche et l'amélioration des conditions de travail, la recherche d'instauration de travail décent, un travail de qualité et évidemment la prise en compte aussi de certains aspects visant plus justement à donner aux travailleurs ici l'amélioration du mieux-être et une garantie dans le sens de sécurité sociale.
Signalons que par ailleurs que ce document devra d'abord être transmis au gouvernement pour examen avant son adoption. Avant de lancer le thème de ce soir, je voudrais rappeler à l'intention de tous les auditeurs et internautes qui nous suivent que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale se sont avérés vains. Comprenez donc qu'il sera très difficile de donner des réponses précises aux questions adressées au gouvernement. Lévin Kaloubi, vous êtes président de la Confédération démocratique du travail CDC. Vous avez pris part à ces travaux. J'ai rappelé que nous vous avons vraiment pris à pied les dernières quelques minutes de l'émission. Comment vous analysez le contenu de ce document?
Bien, merci d'abord, monsieur le journaliste de l'OCAPI. Mon organisation, la Confédération démocratique du travail, c'est une organisation qui tient beaucoup à l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Et d'emblée, je vous dis qu'avant que nous puissions prendre part à cette session extraordinaire, la cinquième du Conseil national du travail, nous avons eu un échange au niveau de notre bureau exécutif pour d'abord savoir et prouver s'il y avait opportunité à ce que nous, en tant que CDT, dans le cadre de l'intersyndicale nationale, nous puissions prendre part à cette session avec un point à l'ordre du jour, la formulation de la politique nationale de l'emploi et la formation professionnelle. Je dois vous dire d'emblée que mon organisation, dès le départ, croyait que c'était peut-être une occasion qui était donnée à la Confédération et aux autres syndicats de d'abord parler des problèmes qui sont l'actualité dans les entreprises. Quelle est cette situation? C'est d'abord le pouvoir d'achat, le SMIG. Donc nous avons, au départ, pensé que si cela était le mieux venu, eh bien, c'est parce qu'actuellement aujourd'hui, le pouvoir d'achat est à terre. Bon, qu'à cela ne tienne, mon organisation a demandé que bon, il ne s'agit pas que nous fassions la politique de la chaise vide, en même temps que nous savons pertinemment bien de l'importance d'avoir pour un pays comme le nôtre la politique, une politique nationale de l'emploi couplée à la formation professionnelle. Nous sommes dit bien, nous prenons part, mais nous ne manquerons pas d'élever notre voix pour dire que qu'on parle aussi de ce de son corollaire qui est l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Pour répondre directement à votre question, quel est le contenu? Eh bien, le contenu, c'est très simple. Le Conseil national du travail extraordinaire a tout simplement, pratiquement, avalisé, si je pouvais me permettre le terme, l'ensemble des travaux en amont qui avaient été effectués. Quels sont ces travaux? D'abord, nous avons eu en 2007, par l'entremise du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, à obtenir la tenue d'un forum national du Conseil de l'Emploi, le premier, lequel forum a pratiquement levé plusieurs options pour qu'on puisse déboucher par la suite par la formulation d'une politique nationale de l'emploi. Et cette politique de formulation de l'emploi n'est pas quelque chose de particulier pour le Congo, ça fait partie des chevaux de bataille du Bureau international du travail qui, dans son agenda de travail, demande à ce qu'il y ait un travail décent. Un travail décent, il faut d'abord qu'en amont, il y ait des emplois, qu'il y ait une politique d'emploi qui puisse permettre à créer des emplois décents.
Donc, bien d'accord,
je vous en prie.
Quand vous dites que votre organisation voulait soulever des questions, par exemple liées au SMIG, est-ce que vous voulez dire qu'à travers ces travaux, les questions essentielles liées à l'emploi ont été éludées?
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que nous avons, nous, en tant que syndicalistes, souhaité que ce soit, n'est-ce pas, le problème de pouvoir d'achat.
Et ça n'a pas été le cas.
Non, ça n'a pas été le cas, mais il a été entendu que prochainement, et dans quelques semaines, enfin, je ne m'abuse pas, le ministère devait, n'est-ce pas, convoquer une session ordinaire ou extraordinaire pour l'examen de ce que nous, on a demandé. Voilà.
Alors, avoir un programme, un document de politique nationale de l'emploi maintenant, est-ce que cela veut dire que depuis l'indépendance, la RDC n'en a jamais eu?
Mais d'abord, c'est une évidence. Nous n'avons jamais eu une politique nationale d'emploi où toutes les sphères de la vie nationale qui concerne l'emploi ont pu se réunir pour dégager une feuille de route. Si vous regardez le code du travail, dans le code du travail, il y a par-ci, par-là, on aborde le problème de l'emploi à travers certains programmes. Au niveau du ministère du Travail, il y a, il y a des programmes de procès, ainsi de suite. Donc, tout cela, des emplois. Mais avoir une politique articulée avec des objectifs précis pour des finalités, n'est-ce pas, à atteindre, je pense que c'est soi.
Voilà, vous parlez également, vous dites également que le CNT a balisé l'ensemble des travaux qui ont été faits en amont, par exemple les résolutions du Forum National de l'Emploi en 2007. Il y a des auditeurs comme Augustin Mwango de Kalima Omanyema qui dit nous en avons assez de bonnes résolutions car nous les avons suivies tout au long de ce mandat de l'Assemblée nationale au gouvernement en passant par le Sénat. Ne s'agit-il pas encore là d'un autre chapelet de bonnes intentions à la veille des élections?
Bien, je ne le contredirai pas. Et cela, voilà là où nous disons que il faut passer aux actes. Or, pour passer aux actes, il faut quand même nécessairement qu'en amont, il y ait d'abord conception de ce sur quoi on va reposer l'acte. Et c'est ça, la conception, n'est-ce pas, d'abord obtenir que pour l'ensemble du pays, il y a maintenant une politique nationale de l'emploi. Ça, c'est un. À partir du moment que cette conception est mise à nu, maintenant le problème, c'est l'application de cela. Et ça demande absolument, n'est-ce pas, qu'on passe aux actes et non pas à rester à dire que nous avons adopté tel document. Donc, merci. Ça, c'est un problème maintenant de suivi.
Merci. Professeur Mathieu Kalélé, je rappelle que vous êtes sociologue et président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais, parti de l'opposition. Professeur, comment vous analysez le contenu de ce document?
Bien, merci Alain. Je trouve d'abord que c'est une opération de relations publiques.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce sont des forums, des réunions, des décisions que l'on prend qui n'ont pas de lendemain sur le terrain. Je rappelle que au début de cette année, beaucoup d'ONG internationales avaient donné des statistiques concernant le chômage en RDC. Ça avoisinait 94% des Congolais qui sont au chômage. Je rappelle également que au lendemain du 50e, le chef de l'État à partir de Kananga avait annoncé la gratuité de l'enseignement. On sait ce que ça représente maintenant. Peu après lui, c'est le Premier ministre qui a parlé de l'amélioration des conditions sociales du Congolais sans lendemain. Aujourd'hui, le ministre de l'économie nous parle de la baisse des prix des produits de première nécessité, ce que l'on vit chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est toujours sans lendemain. Et il ne faut pas oublier que ça fait même sourire lorsqu'on nous parle de 5 chantiers. L'emploi est compris dans le 5 chantier. Quand a-t-on lancé ce programme? Et c'est maintenant, au mois de mai, 5 mai, qu'on va définir la politique nationale de l'emploi. En plus, remarquez, Alain, que chaque fois que ce genre de réunion se tient, ces résolutions se prennent, si vous appelez un représentant de la primature, il ne répond pas. Maintenant, vous avez appelé un représentant du ministère du Travail, il n'a pas répondu, ça signifie que eux-mêmes n'y croient pas. Ils n'y croient pas. On lâche comme ça et les naïfs pensent que quelque chose va s'améliorer. Au contraire, je vais terminer ce premier tour. Je suis heureux que le premier intervenant ait dit, je crois que c'est le ministre, que le programme du gouvernement sur le DCRP, mais le DCRP, c'est le bénéfice de l'ajustement structurel. Quand vous prenez dans l'ajustement structurel, il est stipulé la diminution des effectifs, c'est-à-dire le licenciement, le blocage de salaire. Il est stipulé également la suppression des avantages sociaux, comme le transport, le logement, les annuités, etc. Mais je ne vois pas ce qui va changer. Vous vous rappelez enfin que du temps de M. Mobutu, lorsque les problèmes sociaux étaient devenus aigus à l'issue d'une rencontre du comité central, on avait créé une commission sociale qui a été dirigée par M. Bobolico et ça a fini comme ça a fini. Je crois que l'histoire est en train de se répéter avec la même comédie dans le même domaine.
Professeur, prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Système marine ou pas et social à Goma, la République démocratique du Congo est dotée des documents savamment rédigés dont nous ne jugeons pas les fruits depuis le manifeste de l'enfoiré jusqu'aux 5 chantiers en passant par l'objectif 80 pour ne citer que cela. La République démocratique du Congo est dotée des institutions, des organes, des services techniques. Mais hélas, je pense que ce document qui vient à la fin du quinquennat est le mea culpa du gouvernement.
Brève réaction, professeur.
Je suis parfaitement d'accord avec lui. J'ajoute simplement que, en rappelant le président de la République, il ironisait en parlant aussi des réunions d'experts à experts. Ça, on perd le temps, on perd l'argent, on perd les énergies sur des choses déjà connues.
Mais, professeur, vous parlez d'un aveu d'échec, mais que la RDC se dote aujourd'hui d'un projet, d'une politique en matière d'emploi, n'est-ce pas une avancée?
Oui, au niveau du spectacle. Mais ce n'est pas ça qui intéresse. Notre ami là vous parle du manifeste de l'enseigné, l'objectif Cascada, comme on peut parler aussi sous le PPRD ici de l'amélioration du gouvernement de mission avec amélioration du social, de l'année 2010 à l'année du social. Tout cela, ça nous a donné quoi? On parle, on boit, on mange et après, c'est juste. Si c'était sérieux, pourquoi le ministère du Travail n'aurait pas envoyé quelqu'un participer à cette émission pour nous éclairer davantage?
Merci, professeur. Georges Kombotongaboke, vous êtes analyste et ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Zaïr UNTESA. Vous avez tour à tour suivi Lievin Kaloubi et le professeur Mathieu Kalélé. Comment vous analysez ce document?
Mais merci beaucoup. Je salue en passant Lévin et le professeur Kalélé. Je crois qu'ils ont pratiquement tout dit. Je voudrais simplement ajouter une chose, peut-être un aspect important, parce que la République démocratique du Congo est extrêmement riche en littérature. Ce que nous avons rédigé comme document, officiellement, ils étaient appliqués. S'il y avait une application, je crois que même dans les domaines du travail, le Congo n'aurait pas à se plaindre. J'ai suivi Lévin qui parle du Conseil national. Je crois quand il dit que c'est la première fois qu'on évoque cette histoire de politique nationale de l'emploi. C'est peut-être une question de terme. On va parler de politique nationale de l'emploi, si on a fait une volonté politique pour créer les emplois. Et pour créer les emplois, il faut commencer d'abord par un problème de gestion. Il faut créer des emplois et que ce soit des emplois rémunérateurs. J'ai entendu le professeur Calvé souligner le nombre de chômeurs dans notre pays. Et il a été un peu modeste quand il parle de 94%. Parce que vous savez, lorsqu'on travaille, mais on n'est pas rémunéré conséquemment, c'est comme si on était chômeur. Si on va au travail rien que pour payer son propre transport, Le travail ne rémunère pas, le travail ne compense pas l'énergie dépensée, l'énergie vendue. Donc moi je crois qu'une politique nationale de l'emploi, nous saluons avec l'espoir qu'un miracle viendra dès à présent, qu'à travers ces documents qui, à entendre comme il dit, qui était là, manque de détails importants, puisque si dans cette politique, on a oublié l'aspect fondamental qui aborde la notion du SMIC. À l'époque, nous parlions même encore du SMAC. Il s'agit que tu vois le pouvoir du travailleur. Tu vois ce que l'homme doit disposer, ce que doit comporter son dû mensuel de façon à satisfaire ses besoins vitaux. Parce que si on veut payer aujourd'hui 100 dollars, d'accord. Et encore, qui touche 100 dollars? Avant de toucher 100 dollars, on doit savoir qu'est-ce qui entre en ligne de compte pour que le manger, le transport, la scolarité, et patata, plus l'économie, en passant par le loisir, vous ayez quelque chose de gagner. C'est ça la politique. Alors, il faut le concours de tout le monde. Et ça ne se fait pas comme ça dans le salle. À l'époque coloniale, cette politique se faisait au niveau des structures politico-administratives, c'est-à-dire au niveau de la collectivité, au niveau de la commune. On évaluait qu'est-ce qu'on produit, de ce qu'on produit, quel est le coût par localité, par, et ainsi de suite. Et à la fin de chaque année, ou à l'échelon national, on pouvait dire, voici le coût minimum de la vie et conséquemment, voici ce qu'il faut payer les travailleurs selon les zones salariales de l'époque.
Georges Combo, mais vous avez quand même travaillé pendant très longtemps, hein, je l'ai dit tout à l'heure, comme secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Zaïre UNPESA. Est-ce que vous êtes également d'avis que c'est depuis pratiquement l'indépendance que la RDC n'a jamais eu de politique nationale en matière d'emploi?
Non, attention, on ne dit pas ça. Moi, je crois que c'est une question des termes, je l'ai dit. Hein, et quelqu'un a parlé de manifeste de l'ancienne. C'était un document qui reprend tout, ou qui reprenait tout. Et moi, j'étais membre du comité central du MPR. Et j'étais parmi les présidents de la commission sociale. Mais nous avons une législation abondante et parmi les résolutions qui étaient prises à l'époque, il y a énormément de points faisant état de la politique salariale. Et même en ce qui concerne les dernières résolutions ici, quand nous avons eu des congrès, nous-mêmes en tant que Conseil national du travail. Dans chaque Conseil national du travail, on évoque l'une ou l'autre chose, l'un ou l'autre aspect marquant une politique. Mais nous devons toujours déplorer l'absence d'une volonté politique. Mais qu'est-ce que, même si le document peut exister, mais si les gens ne le font que pour amuser la galerie, mais ce ne serait qu'un événement.
Merci. Il y a bien qu'à l'oubli de la mise en place aujourd'hui d'une politique nationale de l'emploi, aujourd'hui même, n'est-ce pas, est-ce un aveu d'échec du chantier emploi?
Bien, ça dépend de quel côté vous le prenez. Je me situe au niveau, non pas seulement national, mais au niveau même du principe international. Dans la mesure où pour aborder quelque chose, il faut quand même la concevoir et avoir une feuille de route. Dans la mesure où concevoir et définir une politique de l'emploi est déjà, au plan mental, une visibilité qui permet maintenant de passer à l'action, bien, je remercie d'abord le camarade de Combo qui m'a précédé. Oui, il faut non seulement concevoir, mais il faut appliquer. Donc, qu'est-ce qui est regrettable ici chez nous? C'est le fait que, comme on le dit, je suis tout à fait d'accord avec tous les intervenants qui m'ont précédé pour dire que ce ne sont pas les textes qui nous manquent. D'autres viendront. Mais le problème central, c'est
l'application et cette application, la volonté politique qui doit impulser ceux qui doivent faire le suivi de manière à ce que, enfin, que cette conception puisse se manifester dans le concret. Ça, c'est la maladie de notre pays. Et nous devons, comme les précédents camarades l'ont dit, c'est ici où on ne doit pas seulement regarder du côté du gouvernement, nous devons talonner le gouvernement, la société civile, les syndicats, les opérateurs économiques, les opérateurs sociaux que nous sommes, ensemble, nous devons conjuguer les efforts pour que l'emploi, parce que c'est celui-là, au travers lequel, n'est-ce pas, la pauvreté, n'est-ce pas, va être complètement balayée, à partir du moment où l'emploi peut générer et devra générer, n'est-ce pas, le travail décent. Alors là, quand vous prenez la décence du travail et tout ceci, et ça conditionne tout ce qu'il y a comme condition de vie meilleure à partir des conditions de travail décent, de conditions elles-mêmes qui viennent d'un emploi décent. Regardez ici actuellement, ici dans notre pays, qu'est-ce qu'il y a comme emploi?
Il y avait un Kaloubi.
À côté des Libanais et des autres, ce sont des emplois précaires pour lesquels, n'est-ce pas, nos compatriotes ne gagnent pratiquement rien. Ce sont des esclaves.
Il y avait un Kaloubi. Prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Docteur Jean-Claude Kiko Olongue de Kinshasa, j'aimerais connaître la politique sur l'emploi et la formation professionnelle. Quelle est la solution préconisée par le 5 pour réduire la pauvreté liée à l'exclusion à la protection sociale? Parce qu'au Rwanda, on a installé un système de prévoyance sociale et aujourd'hui, il est le pays modèle en termes d'accès de la population au système de santé. Notre ministère de Travail et Prévoyance sociale a un secrétariat général de la prévoyance sociale, mais qui ne reçoit aucun financement d'investissement en termes de protection sociale.
Voilà, nous l'avons déjà dit, il n'y a personne du ministère pour répondre à cet aspect, mais du moins, l'auditeur évoque l'aspect prévoyance sociale, dit Evin Kaloubi. Vous êtes syndicaliste, qu'est-ce que vous en dites?
Bien, j'ai déjà été au Rwanda dans le cadre syndical, et ce que l'ami vient de dire ici est tout à fait exact. Vous savez que le problème de la protection sociale, c'est ça qui manque le plus ici chez nous. L'Institut national de sécurité sociale ne gère que quelques aspects de la protection sociale. Ceux qui sont dans les auto-emplois, dans les informels, dans les secteurs même formalisés ou bien de secteurs formels et tout ceci, très peu de protection sociale existe. C'est la raison pour laquelle, pour notre pays, nous militons pour que le ministère, à travers ses instruments de travail, en accord avec tous les autres, c'est-à-dire les employeurs, les organisations des travailleurs, les ONG qui s'intéressent aux problèmes de protection sociale, l'État lui-même, il y a lieu, n'est-ce pas, de mettre en place un mécanisme qui permette de prendre en charge cette protection. Merci. Que ce soit pour les indépendants, que ce soit pour ceux qui ont des contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, et tout cela, ensemble, on devait, n'est-ce pas, le faire.
Merci.
Donc, je connais la situation du Rwanda pour y avoir été dans le cadre syndical, et tout à fait d'accord, je vous en prie.
Professeur Mathieu Kalele, il y a Arnold Mungombeni de Bukavu Sud-Kivu qui dit « Le gouvernement ne doit plus continuer à distraire les travailleurs car les projets ont déjà été élaborés depuis l'accord de Mboudi jusqu'à ce dernier en passant par différentes négociations avec les syndicats des travailleurs du secteur public. Mais les conditions n'ont jamais changé positivement alors que le social figure parmi les 5 chantiers du président de la République. Au lieu de continuer à concevoir des projets qui ne seront pas exécutés, le gouvernement devrait d'abord appliquer rien que l'accord de Mboudi et atteindre les paliers convenus, professeur.
Ah, je suis parfaitement d'accord avec ce monsieur-là. Je le salue d'ailleurs. Je rappelle que relisons notre constitution, l'actuelle. Vous avez cet article qui ne parle que du problème d'emploi. Et cette constitution fait obligation au gouvernement de donner de l'emploi décent aux travailleurs, aux Congolais, à tous les Congolais. ce n'est jamais appliqué. Je note également que durant le mandat de Mme Luciana au ministère du Travail, nous avons eu 6 arrêts de travail dans les magasins des Libanais, des Indo-Pakistanais pour le traitement dégradant, le manque de toilettes, le manque de pause à midi, ça continue. Je rappelle également, on l'a dit, on l'a vécu ici, je crois on l'a dit même, aux antennes, au bon marché, les Ouest-Africains qui sont là utilisent des Congolais, ils les payent $20 par mois, ils les battent au vu aussi autour de tout le monde. Il y a eu même un cas où un Ouest-Africain a tissé sur sa sentinelle. Il n'a jamais été inquiété. Donc, tout ce que l'on fait là, il faut appliquer, il ne faut pas revenir sur les mêmes histoires. Pourquoi il y a des banques de données? On va faire ça, on perd l'argent, comme je l'ai dit, on perd l'énergie. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le seul pays au monde où l'employé ne connaît pas de date de paye. Il est payé de manière horoscopique. Et souvent après 2 mois, 3 mois. Nous savons également que sur le terrain, pratiquement chaque mois, si vous prenez l'enseignement primaire et secondaire, on démécanise les gens pendant qu'on mécanise d'autres. Et il y en a qui ont fait 1 année, 2 années sans être payés.
Professeur.
Oui.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le secteur de l'emploi en RDC, professeur?
Qu'on applique les textes qui sont là-bas. Et les intervenants disent que c'est un problème de volonté politique. Or, cette volonté-là n'existe pas. C'est également un problème de programme. Avec le DCRP, petit fils de l'ajustement structurel, qu'on n'arrivera pas à améliorer le problème de l'emploi. On ne va que licencier, diminuer. Lorsqu'on augmente, on fait une petite augmentation, observez très bien, vous pouvez consulter mes archives. Un mois après, il y a dévaluation et le nouveau salaire est au moins 2 fois inférieur à l'ancien.
Mais professeur, aujourd'hui, il faut appliquer les textes, il faut appliquer les textes qui existent, mais avec quels moyens?
Mais le problème de moyens, c'est la volonté publique et la volonté politique. Monsieur Alain, vous voyez les salaires des expatriés ici, dans un pays qui se dit pauvre. Vous voyez également les bâtiments, les villas qui poussent à gauche, à droite. C'est dans le même pays où l'on prétend n'avoir pas de moyens.
Merci, professeur. Georges Kombo, il y a Kairi Matemera de Kalemio Katanga qui dit « Je voudrais savoir si c'est par nos propres moyens que la vie des travailleurs va s'améliorer ou il faut un appui extérieur. »
Non. Les deux se valent, mais la réalité est que c'est le travailleur congolais qui est le producteur, parce que c'est à cause du travail, par le travailleur, que l'économie peut trouver un marché. Il faut que le travailleur congolais, devenu consommateur réel, puisse inciter la production, la productivité de notre économie. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que le travailleur est incapable de détruire pour inciter la production, de manger pour permettre aux opérateurs économiques d'ajouter, de faire un effort, d'améliorer la production. Alors nous, si nous ne pouvons pas produire parce que nous ne sommes pas capables d'inciter le marché, parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas.
Georges Kombo, Voilà, nous venons de perdre Georges Kombo. La réalisation va tenter de le retrouver. Liévin Kaloubi, je rappelle que vous êtes président de la Confédération démocratique du travail, CDC. Vous avez pris part aux travaux de la 5e session extraordinaire du Conseil national du travail. Tout à l'heure, pour améliorer le secteur de l'emploi en RDC, le professeur Kalélé disait simplement qu'il fallait appliquer les textes et qu'il fallait beaucoup de volonté politique. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça pour améliorer ce secteur?
Bien, d'abord, je suis parfaitement d'accord avec la prise de position du professeur Kalélé. Ce qu'il faut ajouter, c'est que actuellement ici, en plus de la volonté à souhaiter voir réellement être impliqué dans l'impulsion de l'exécution, je crois que le Congo n'est pas en dehors de la mondialisation dont les effets bénéfiques et négatifs, n'est-ce pas, nous concernent. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes dans un contexte où nous devons prendre les choses à partir des réalités qui sont les nôtres. J'ai entendu le camarade Kombo mettre l'accent sur le fait que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont les bâtisseurs de ce pays. Absolument d'accord. Mais encore, faut-il que nous ayons suffisamment les moyens. Et les moyens, quand vous avez posé la question, les moyens, c'est ça, se trouvent dans la volonté politique de les générer. Effectivement, c'est ça le problème réel de ce Congo. Quand nous voyons à côté le blanchissement, peut-être, n'est-ce pas, de l'argent, moi, je ne sais pas qui vient d'où ça, parce que ça provient d'où cet argent qui fait qu'il y a des usines qui sont immédiatement en vol, et ceci. Mais pendant que les bâtisseurs, c'est-à-dire les travailleurs, la force du travail, est mal payée. Elle est pratiquement chosifiée. C'est l'esclave. Donc, comment sortir de cela? Il faut que tout le monde, en commençant par celui qui a le plus gros de travail, c'est-à-dire l'État employeur, doit donner l'exemple. Les investisseurs étrangers viendront, oui, naturel, et comme cela, on pourra voir comment ils peuvent apporter leur part de contribution. Mais d'abord, c'est nous-mêmes, avec l'État, qui doit être le fer de lance.
Merci. Je vous en prie. Georges Kombo, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis là. Je voulais dire que nous devons faire un effort pour que nous-mêmes, les soignants, puissions contribuer à l'amélioration de notre économie, mais il faut que nous en ayons les moyens. Le peu d'emplois que nous enregistrons ici sont généralement confiés à des étrangers. Je vois ici par exemple les chantiers avec les Chinois, comme si nous n'avions pas de capacités au niveau local pour faire ces travaux. Alors on nous dira que c'est notre propre volonté. Donc ce sont nos propres autorités qui nous engagent. Les grandes unités de production que nous avions, l'ONATRA, la Gécamine, la MIBA et consorts, sont aujourd'hui en faillite par terre. Il n'y a presque plus personne, plus rien. Alors en ce moment-là, mais quelle politique nationale parle-t-on? Vous avez, puisque nous allons terminer certainement, vous parlez de la condition pour la sécurité sociale. Vous savez, dans d'autres cieux, les instituts nationaux de sécurité sociale, parfois empruntent de l'argent au gouvernement parce que c'est une entreprise toujours prospère. Mais chez nous, tous les biens de l'INSS sont gérés par le gouvernement, sont confisqués par le gouvernement, et l'INSS passe pour une entreprise pauvre.
Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour améliorer tout ça?
Mais pour améliorer, il faut le vouloir. Il faut pas qu'on fasse cette complaisance, comme c'est le cas maintenant. On amène les gens, la presse, pour dire voilà, encore une fois des théories, une fois des théories. Mais non, c'est ce que l'INSS. Pourquoi ne pas confier à l'INSS la direction réelle de la sécurité sociale comme dans d'autres pays? Parce qu'il y a des travailleurs, ici il y en a qui les travailleurs, ils sont indépendants.
Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont passés par l'INSS préfèrent mourir que d'aller toucher ce qui ne s'est même pas utilisé à cause de l'autre.
Mais
nous avons un problème de sécurité sociale parce que la sécurité sociale n'est pas gérée. Il faut que les jeunes, ceux qui sont aujourd'hui, puissent payer pour ce qui viendra demain. Or, ceux qui étaient payés hier, il y avait la tripartite. Le patronat, le syndicat et le gouvernement. Le gouvernement a refusé de participer, il restait plutôt le patronat et le syndicat. Et ces deux-là ne pouvaient pas avoir droit au chapitre parce que tout le patrimoine appartient à l'État.
Jean-Jacques
Combeau.
Combeau.
Alors, demander aux travailleurs de se prendre en charge. Les travailleurs attendent tout du gouvernement, eh bien, les travailleurs congolais mourra de sa bonne mort.
Georges Combeau, vous êtes analyste et ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Zaïre. Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Je vais demander des réponses assez courtes. Il y a certains employeurs, particulièrement dans le secteur privé, qui évoquent les charges fiscales, la pression fiscale parmi les causes de la détérioration de l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Brièvement.
Vous savez, une charge doit être proportionnel. Mais si vous ne me payez presque pas, et vous dites que vous avez une charge sur moi, en réalité, c'est vous qui m'exploitez, et le gouvernement, avec ses fonctionnaires, et le secteur public, enfin, public et privé, qui est celui qui peut dire aujourd'hui qu'il paye les travailleurs ou les fonctionnaires de façon, disons, convenable? Personne. Personne, avec quelques exceptions près. Mais parce que le coût de la vie d'aujourd'hui, vous savez, on a dit, ah voilà, parce que maintenant, on va libéraliser le ciment, ce ne sera plus comme avant. Moi j'ai dit dans votre émission, qu'avec 4 dollars, on peut acheter un sac de ciment ici. L'importateur ne perdra rien.
Merci.
Mais il faut que le gouvernement accepte ce qui en fait ainsi.
Merci.
Si ce sont les autorités de l'armée, les autorités politiques qui greffent tout ce qu'il y a là-bas comme
activité
et qui augmentent le coût du ciment.
Merci. Professeur Kalili, vous êtes un sociologue et président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais. Il va déjà falloir conclure l'émission, va toucher à sa fin. Professeur, qu'est-ce qu'on doit retenir du secteur de l'emploi et en plus de ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut améliorer en guise de conclusion?
Mais je crois que le secteur de l'emploi, comme bien d'autres secteurs, va mal, très mal. Et que la solution, on l'a dit dans cette émission, y compris par ceux qui posent des questions, c'est un problème de volonté politique. Quelqu'un a parlé de l'accord de Mboudi. J'étais directeur de cabinet auprès de M. Zaïdi à l'époque. Je connais très bien cette affaire. Ça a été décidé au sein du gouvernement. Zaïdi, comme chargé du secteur socio-culturel, était mandaté pour matérialiser cela. Et lorsque on arrive avec les travailleurs en Mboudi à 207 pour le huissier, à payer d'ailleurs par tranche, on a vu ses collègues du gouvernement se retourner contre lui, montrant que c'est de la démagogie, il était impossible qu'on paye ce qui était proposé. Donc, les mêmes gens.
Merci.
Se sont retournés contre un de leurs. Je termine, si vous permettez.
Je vous en prie, très rapidement.
Qu'on revoie le nombre d'effectifs dans l'armée, le nombre d'effectifs dans la fonction publique, le nombre d'effectifs dans l'enseignement.
Merci, professeur.
Et qu'on voit également combien de sommes sont détournées par les responsables au détriment de ceux qui travaillent réellement.
Merci, professeur. Lievin Kaloubi, un mot en guise de conclusion.
Bien. En guise de conclusion, c'est que la politique nationale de l'emploi, d'accord, mais en tant que contenant, mais le contenu, il faut qu'il puisse être qu'ils prennent en charge, n'est-ce pas, la politique nationale salariale.
Merci beaucoup. Georges Combeau, votre conclusion.
Eh ben, moi, je crois que il est temps que le travailleur congolais se prenne en charge et qu'il se réveille et qu'il dise non à cette justification.
Merci. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Vous avez compris que tous nos efforts pour avoir dans ces débats un représentant du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale se sont avérés vains. Merci de nous avoir suivis. Bon, c'est notre programme sur Radio Capice.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapice.net.